Le lavoir numérique est l'établissement public Grand Orly Seine-Bièvre présente de la maison Doisneau au lavoir numérique. Rencontre avec Fabien Cohen, adjoint à la culture de Gentilly de 1977 à 2008. Michaël Houlette, bonjour.
Bonjour.
Après avoir parlé dans ces podcasts de la naissance du lavoir numérique, de l'histoire aussi ensuite de ce lieu si singulier, on va faire ensemble, dans ce troisième volet, en quelque sorte, une évocation d'une autre histoire, une histoire peut-être plus politique et institutionnelle, une histoire liée évidemment à la politique culturelle d'une ville, qui est celle de Gentilly, qui abrite le lavoir numérique, dont vous êtes le directeur.
Alors on ne peut pas parler de la création du lavoir numérique, et on va l'entendre de la maison Robert Doisneau, sans raconter l'histoire d'un personnage, enfin il va se raconter lui-même, hein, qui est Fabien Cohen, qui a été adjoint à la culture pendant 30 années, de 1977 à 2008, donc c'est pas rien. Et c'est un témoignage oral, patrimonial, qui est important à mes yeux, parce que de l'intérieur, on comprend comment s'est créé un lieu comme celui du lavoir numérique. Donc ce que raconte Fabien Cohen, c'est à la fois l'histoire d'une certaine idée de la culture et la mise en œuvre d'une vision. C'est l'histoire d'une effervescence, mais c'est aussi l'histoire d'un bouillonnement d'idées, et c'est aussi une histoire patrimoniale, parce que quelques années avant la mutation du lavoir, c'est-à-dire sa transformation en une friche qui était auparavant un lieu dédié à l'hygiène du corps et des vêtements, il y a eu un précédent à Gentilly qui est celui de la création de la maison Doisneau. Donc là aussi, il y a eu une conversion, c'est-à-dire la récupération d'un lieu patrimonial emblématique de la ville, puisque la maison de Robert Doisneau, c'était l'une, et c'est toujours l'une des plus anciennes bâtisses de la commune. Il y a eu la réhabilitation de ce lieu, l'idée de conserver un patrimoine et de le transformer en une structure culturelle telle qu'elle existe aujourd'hui et qui marquait un tournant dans la politique culturelle de la ville et qui allait délibérément se tourner vers l'éducation à l'image et au son.
Et c'est justement en l'interpellant et en lui demandant de se rappeler, je me souviens, que Fabien Cohen va nous raconter tout ceci.
En réfléchissant, je me suis dit, qu'est-ce qui a fait que j'étais aussi sensible à ces questions-là ? Quand j'ai été môme, à l'âge de 14-15 ans, j'ai eu la tuberculose. Et ayant eu la tuberculose, je me suis retrouvé dans un sanatorium. Bon, ce qui est normal, quand on a la tuberculose, on est cloîtré dans un sanatorium. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'étais jeune, mais j'étais dans un sanatorium de plus âgés. Parce qu'il se trouvait que j'avais une année d'avance au niveau des études, et donc mon âge ne correspondait pas, mais mon niveau scolaire, oui. Et donc, je suis rentré dans le sanatorium de grands, si je puis dire. Et dans le sanatorium de grands, il y avait, outre bibliothèque, etc., il y avait une radio. Et une radio commune à tous les étages, puisque une bonne partie de ceux qui étaient, par exemple, au troisième étage et au deuxième étage, n'avaient pas le droit de sortir, puis ils étaient contaminants. Donc, étant présent là, il fallait un outil pour communiquer entre nous. Il y a une radio, et j'étais animateur de cette radio dès que je n'ai plus été contaminant. Donc, pendant tout ce temps-là, j'ai tenu ces radios. Mais en même temps, il y avait un laboratoire photo. Et c'est là que je me suis initié à la photographie. Ce qui a fait qu'après, j'ai pu diriger le club photo de Saint-Michel. C'est celui qui est à la pointe de Saint-Michel de Paris. Donc, cet lien entre le son et l'image, je pense que quelque part, en réfléchissant, inconsciemment, elle a dû venir de là. C'est-à-dire à la fois l'importance que représente le son, la radio, comme on est en train de faire, et en même temps, l'impact de l'image que représente la photographie. Et il se trouve que dans ce même lieu, toutes les semaines, il y avait des séances de cinéma. Et donc, il y avait des films. Donc, je me retrouvais avec de l'image animée, de l'image fixe et de la radio, dans un même lieu où j'étais, moi, un acteur de ces trois points, pour différentes raisons, et qui m'occupait.
Ce qui est intéressant, Fabien Gouen, parce qu'on adore ici au Lavoir numérique sur les histoires. Et puis, alors, quand on est dans l'archéologie de la mémoire, en l'occurrence là de la vôtre, il y a une question qui peut se poser, c'est que ce que vous évoquez là, c'est-à-dire ces souvenirs d'enfance, le moment où vous rencontrez et l'image et le son dans ce sanatorium où vous allez guérir de cette tuberculose, puisque vous êtes encore là. Et alors,
on peut. Aussi.
Il y avait des antibiotiques. Ce qu'on sait, c'est que vous n'avez pas été psychanalyste, mais adjoint à la mairie de Gentilly, ça a duré, à la culture, ça a duré combien de temps ?
31 ans. 31 ans d'adjoint à la culture, c'est-à-dire 6 mandats. Et ça, c'est très intéressant, la longueur de temps. Souvent, on dit que les élus doivent y avoir des rotations. C'est vrai. Et en même temps, quand on est sur une telle longueur, ça permet de construire. Ça permet de... Parce que notamment en matière d'urbanisme, mais c'est vrai aussi en matière de culture, les choses ne sont pas sur une courte durée. Entre le moment où on imagine et le moment où ça réalise, ça peut prendre 3, 4, 5, 10, 15 ans. Le Lavoir, ça a pris bien plus que ça, d'ailleurs. Non, je crois qu'effectivement, d'avoir été adjoint, très jeune en plus, m'a permis de marier l'histoire de la ville. Tous ceux qui l'ont sont arrivés, parce que dans les années 77, quand je suis arrivé à la mairie de Gentilly, il y avait encore des femmes et des hommes qui avaient fait la guerre, qui avaient fait la résistance. Donc, et ils étaient présents. Certains étaient même encore au conseil municipal.
Donc il y en a qui se sont baignés ici, enfin, je veux dire, douchés à l'établissement des publics, des bains-douches.
Bien, notamment la mère, la jeune mère, parce qu'à l'époque, c'était une jeune mère, Carmen Leroux, elle avait 40 ans à peine, moi j'en avais 23. Le premier adjoint, il avait 30. C'était Yann Joubert, qui est devenu après maire. Et donc, on a pu, ensemble, dans cette direction municipale jeune, se propulser sur le futur.
Et communiste. On le dit parce que c'est important.
C'est bien que ce soit vous qui le disiez. Oui, et que ce soit une ville communiste, effectivement. Mais d'une histoire communiste aussi, parce que c'est pas tant... comment dire, on parle souvent de communisme municipal. Et c'est vrai qu'il y a de cela. Mais c'est vrai qu'on a là une histoire qui était ancrée sur de l'essentiel. L'essentiel, c'était de pouvoir permettre aux enfants de la ville et aux plus âgés d'accéder à des choses essentielles. Parmi ces choses essentielles, il y avait un petit conservatoire et il y avait une petite bibliothèque. Et à partir de là, il y avait déjà plus que un équipement, parce que je crois que c'est ça qui est important. C'est un équipement est une chose, une stratégie politique culturelle en est une autre.
Et vous dites stratégie, Fabien Cohen, politique culturelle, vous pourriez dire tout simplement vision.
Mais je crois que surtout que c'était une, comment dire, c'est une démarche qui était ancrée dans l'ensemble des villes communistes. C'est-à-dire que c'était pas une spécificité gentiléenne. C'était quelque chose qu'on retrouvait à Ivry, qu'on retrouvait à Arcueil, qu'on pouvait retrouver dans d'autres villes. Là, je parle du Val-de-Marne en première couronne, mais on va dire Montreuil, mais ça peut être aussi dans
Aubervilliers,
etc., etc. Donc, ou Nanterre. Je crois que de ce point de vue-là, on est arrivé à cette époque-là, donc je disais en 77, où on se disait qu'il fallait passer une étape. Il y avait des choses à réfléchir et à construire.
Et puisque vous évoquez, c'est la fin des années 70, ce squat qui est en face aujourd'hui du Flambant Neuf, Lavoir numérique, qui était ancien établissement public bain-douche de Gentilly, eh bien celui-ci était aussi presque aux mains des squatteurs, il était vide.
Alors il était vide et c'était un vrai sujet de réflexion. Faut avouer qu'il y avait deux tendances, si je puis dire. Ceux qui pensaient qu'on pouvait rien faire de ce bâtiment et qu'il fallait le raser. Et ceux qui, dont je faisais partie, pensaient que c'était un bâtiment qui, certes, dans sa partie, celle qui est rénovée d'ailleurs aujourd'hui, avait besoin d'être repris en totalité, mais pas le fronton, pas ce qui était sur la rue, qui était à classer, quoi, monument historique pour nous. Et donc, il fallait trouver la forme. Alors, la discussion après a été pour quel objectif, sur quoi. Naturellement, adjoint à la culture, j'ai poussé pour que ce soit un bâtiment à vocation culturelle. Et puis, y en a d'autres qui pensaient qu'effectivement, il pourrait avoir d'autres vocations. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où on a eu cette volonté d'en faire un équipement culturel et donc de le rénover dans cet objectif-là, dans le cadre d'une ZAC, il fallait d'abord que la ZAC avance. La ZAC a été gelée pendant 10 ans, parce que c'était une période où les bureaux se vendaient peu, mal, et donc comme c'était les bureaux qui devaient financer en partie les autres éléments, notamment HLM et autres, ou bâtiments d'habitation, ou équipements, il fallait patienter, donc ça a patienté, ce qui a fait que ce bâtiment est resté dans cet état-là, et quand Robert Doisneau l'a visité, il a effectivement trouvé le bâtiment que certains essayaient de venir voir et se faufiler pour aller se rendre compte, mais en fait, qui était relativement délabré. Il était délabré, mais il était vraiment beau. Il était beau parce qu'il avait cette beauté des constructions anciennes, avec des céramiques, avec cette dimension qui allie l'eau, essence des lavoirs et bains douches, avec le social, avec la dimension de ce qu'il représentait pour le public qui le fréquentait. Mais je crois que ce qui est important, c'est que nous ayons réussi à conserver cette dimension mémorielle, mais qu'on ne l'a pas enfermée dans une histoire. Parce qu'il y a eu à un moment donné l'idée de faire un musée de ce qui sont les bains-douches ou les lavoirs. Ça aurait pu être intéressant d'ailleurs, pourquoi pas. Ça a été évoqué à un moment donné. En fait, le lavoir est le résultat d'un... Une fois qu'on a décidé de ce que l'on voulait en faire, le lavoir est le résultat d'un appel à projet. Il y a eu beaucoup de projets. Là, j'ai dû avoir par là la fiche du projet des lavoirs. C'est le projet pour les bains douches. C'est la maison de l'image et du son. Et ce projet a fait l'objet d'une étude. Et nous, on a... alors, le « nous » étant la ville de Gentilly, on l'avait, mais on avait d'autres projets. Et donc, on a mis en place un jury fait de personnalités. Il faut dire que nous n'avions pas forcément le même point de vue, le maire et moi-même. Lui, il était beaucoup plus art plastique. Et les deux qui sont ressortis, qui sont devenus concurrents pour le dernier tour, si je puis dire, c'était celui des bains-douches versus Cercle d'art. Et celui des bains-douches, donc, versus son image.
Et ce projet est porté par l'association dont vous êtes encore aujourd'hui le président, qui est celle qui s'appelle Son Image.
Alors justement, c'était pour éviter... Alors, à l'époque, j'avais dû laisser ma place de président, puisque c'est pour exercice de fait. Vous savez, on n'a pas le droit d'être président et en même temps maire adjoint, se donner des subventions. Et ce projet était, je pense, suffisamment bien ficelé pour que le jury, en votant à bulletin secret, a voté majoritairement pour le projet et son image. Compte tenu que c'est un jury qui avait été formalisé dans les règles de l'art, si je puis dire, sa voix a été définitive.
Alors, dans ce projet, il s'agit de faire quoi de ce bâtiment-là où nous nous trouvons actuellement, mais qui n'avait donc pas forcément la même vocation, les lignes forces, Fabien Cohen?
Je crois qu'on les retrouve aujourd'hui dans le projet de Michael. C'est-à-dire, d'abord, c'est montrer à quel point il y a une évolution dans le son et l'image et quelle est la place qu'elle représente aujourd'hui, à la fois séparément et ensemble, si je puis dire. Séparément, l'exemple podcast en est un exemple. Ensemble, c'est que, bien sûr, quand il y a de l'image sonorisée ou des films ou documentaires, etc. Donc, l'idée, c'était de dire qu'aujourd'hui, l'image... Enfin, le sentiment que j'avais dès les années 70... et peut-être même avant, comme je le disais tout à l'heure, c'est que l'image et le son... Alors, j'en pouvais avoir l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, que l'image et le son allaient de l'avenir. Donc, on pouvait penser que c'est quelque chose que tout le monde pouvait penser. Et pour autant, dans les stratégies municipales, l'activité autour du son et de l'image était soit éventuellement des expos, soit c'était du cinéma. Il y avait des salles de cinéma, en tout cas, c'était quelque chose de très fort. Mais comment on fait en sorte que les jeunes, les enfants et les couches populaires puissent décrypter l'image et comprendre mieux le son? Voilà. L'idée, c'était de dire que les jeunes et les enfants de Gentilly avaient droit, comme tous les autres, notamment dans les milieux moins populaires, on va dire, qui avaient plus ces possibilités d'aller dans des endroits où ces choses-là étaient déjà appréhendées. Hein. Nous n'avons rien inventé en soi. On a simplement dit que ça n'est pas réservé à une couche sociale et qu'en banlieue, on avait le droit aussi de pouvoir se former au son et à l'image et le son, comme on veut, de manière à pouvoir, comment dire, les maîtriser dans les années qui suivent. C'est ainsi qu'on a mis en place, par exemple, dès les années 83, 84, 85, je ne me rappelle plus exactement les dates, un atelier d'image et du son au point J. Ça s'appelait le point J, ça s'appelle toujours, je crois, le point J, puisque j'ai été aussi adjoint à la jeunesse tout un temps, en même temps, de 77 à 83. Et j'avais trouvé que c'était important de pouvoir permettre à ces jeunes de se servir de table de montage, de servir de caméra, de pouvoir se servir de voilà, et de monter éventuellement eux-mêmes des films, etc.
Ce qui fait cette idée-là de l'éducation à l'image dont on parle tant aujourd'hui.
Exactement. Et donc de travailler sur l'éducation à l'image très jeune. Très jeune, c'est-à-dire dès l'âge de 8, 9, 10 ans et même éventuellement avant. Aujourd'hui, son image présente des fois des films à des jeunes qui sont en maternelle. Il nous semble que à partir du moment où l'image rentre dans les familles, à travers notamment la télévision et aujourd'hui aussi à travers les écrans multiples, mais à l'époque, je rappelle qu'il n'y avait pas encore les ordinateurs, et on démarrait tout ce qui était ce qu'on appelait la vidéo. Voilà. Et c'est comme ça que le premier festival de Gentilly a eu lieu, le festival vidéo de Gentilly, qui, pour la première fois, je crois que c'était la première année de ce festival, qui a duré un certain nombre d'années avant de devenir, il a changé deux fois de nom, devenir le Festival des écrans documentaires aujourd'hui. Ce Festival des écrans documentaires est né avec cette idée que, finalement, l'image pouvait être utilisée par n'importe qui. On avait aussi beaucoup travaillé sur l'art en vidéo, l'art vidéo, parce que cette idée d'utiliser, d'un point de vue plastique et artistique, ce qu'on appelait la vidéo, donc l'image numérique, en quelque sorte, sur un plan artistique, était quelque chose aussi qui était un peu nouveau. Et donc, on est rentré dans ce bain-là avec, comme on avait plus de cinéma à Gentilly depuis 84, je me suis dit, comment continuer ? Comment continuer à avoir une stratégie locale d'image alors que nous n'avions plus la possibilité d'avoir un cinéma ? Et de me dire, après tout, finalement, c'est pas si grave de ne plus avoir de cinéma, puisqu'on peut avoir l'image différemment. Et c'est là qu'on a commencé à faire des murs de télévision. Vous savez, c'est des murs d'écran qui permettaient de recomposer l'image à travers tous ces écrans. Il y a des fois des hasards qui font bien les choses. Voilà. Il faut avoir une stratégie. Pour moi, la stratégie forte pour Gentilly, c'est que on ne peut pas concevoir, et là je le dis, parce que j'en suis vraiment intimement convaincu, on ne peut pas concevoir une politique culturelle sans un pôle image et son. Il était pour moi fondamental, et je cherchais le moyen de le mettre en œuvre.
Alors j'essaie de vous suivre, Fabien Cohen, et je n'ai pas encore vu naître ce qui est pourtant arrivé dans ce pôle image et son avant ce lavoir numérique où nous nous trouvons actuellement, et que vous venez d'évoquer à travers un projet qui date donc de la fin des années 80. La maison Robert Doisneau est arrivée avant.
Alors, la maison Robert Doisneau, c'est une double conjoncture, ou conjonction plutôt. Il y a eu à la fois le fait que Robert s'était éloigné de Gentilly. Cela étant, pour une raison que je ne connais pas, il a repris contact avec la ville de Gentilly dans les années 70-80, ce qui fait qu'on a fait une première exposition de Robert Doisneau à Gentilly, dans la salle du conseil, pas la salle des fêtes de la mairie. Et cette première exposition a retissé des liens entre la ville et Robert Doisneau. Comme on était une jeune municipalité, les choses sont vite liées d'amitié. Et il est devenu plus fréquent de le voir dans les rues de Gentilly et nous de nous lier à lui. Il s'avère que dans le même temps, la maison qui est aujourd'hui celle de la maison Robert Doisneau, qui était un truc en délabré, etc.,
se poser la question, qu'est-ce qu'on en faisait? Et puis, on a évoqué avec la mère de Gentilly cette idée de qu'est-ce qu'on peut faire pour Robert Doisneau, pour qu'il reste, pour qu'on, etc. Et donc, d'où j'ai fait cette proposition, pourquoi on ne ferait pas de cette maison un lieu consacré à la photographie et à l'époque à Robert Doisneau.
Chapitre 4. C'est l'histoire d'un banlieusard qui aime ce banlieue parce qu'il y est né.
Et qui retrouve de temps en temps des lambeaux de sa jeunesse.
Bon, c'est un peu sucré ce que vous dites là.
Oui, oui,
d'accord. Alors on dit carrément autre chose. Chapitre 4, c'est l'histoire d'un banlieusard qui détestait sa banlieue.
Ah bah ça, on fait dans la violence maintenant. Qui détestait sa banlieue et qui l'a. Parce qu'elle était toute briquée de broquet de guingois et qui maintenant la voit cubique.
Non, mais c'est pas ça que je veux vous faire dire. Alors on reprend, c'est chapitre 4. C'est l'histoire d'un banlieusard qui détestait sa banlieue et qui revient à Gentilly au coup de la bièvre. Pourquoi?
Parce que le saumon revient toujours à l'endroit où il est né.
Et ben voilà.
Et que suis-je donc?
Et ben vous êtes le saumon de la bièvre.
Mon Dieu.
Oh, enfin. Qu'est-ce qu'on fait là?
Oh, ce qu'on fait là, c'est une situation très très bizarre. Je suis planté sur ces espèces de terrain vague devant un bâtiment qui est en cours de réfection, qui doit s'appeler pompeusement un musée.
Mais c'est un grand honneur alors d'avoir un musée. Vous rendez compte, un musée de votre vivant?
Un musée de mon vivant, c'est... Est-ce que vous croyez que c'est comique d'être empaillé de son vivant? C'est un sentiment très étrange. J'arrive pas à y croire trop. Hein. Oui. C'est pas... Je me sens encore un peu trop grouillant pour être mis dans une vitrine.
Pour marquer le coup, et on voit ça dans le film de Sabine Azéma, où il y a en partie, c'est il a pris des prises lors de son dernier grand anniversaire qu'on a fait à Gentilly. C'était pour ses 80 ans et on lui a fait. Mais c'était, je me rappelle, c'était un truc. Il y avait je crois que toute la France était présente, toute la France qui comptait. Non, mais il y avait énormément de gens. Ça a duré du matin jusqu'au soir. Il a signé pendant peut-être 7 heures, 8 heures des livres et sans interruption. À un moment donné, on lui a dit, mais il faut que tu t'arrêtes. Non, ils veulent que je signe. La chance, c'est que Robert se promène à un moment donné avec Sabine et présente la maison Robert Doisneau. Et il dit, c'est ma maison Robert Doisneau. Il y a eu en le même temps... la maison, la bibliothèque historique de la ville de Paris, organisait un salon sur la photographie humaniste. Il se trouve que donc une des deux commissaires était Annie-Laure Van Averbeek. J'étais dans l'avion avec le directeur de service culturel qui m'a mené à Freiberg, la ville avec laquelle on est jumelé, où on devait avoir une exposition et je devais représenter la ville de Gentilly. Et j'avais le monde que j'avais pris pour lire dans l'avion. Et je tombe sur cet article-là. Et je dis à Gilbert, ce sera une maison de la photographie humaniste. Et c'est Annie-Laure que je veux. et c'est comme ça qu'on a commencé à débaucher Annie-Laure Van Averbeek pour qu'elle devienne directrice de cette future maison et qu'elle travaille à la conception de cette maison. On a eu ce travail qui a été fait... pour construire une réflexion autour de, après, qu'est-ce que ce qu'on entend la photographie humaniste? D'où le premier bouquin qu'a sorti la maison Robert Doisneau, « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» Mais c'est vrai qu'on avait là quelque chose qui nous permettait de rassembler la famille des années 30, 40, et même avant d'ailleurs, mais enfin bon, disons 30, 40, 50, 60, 70... Et même au-delà, parce qu'on est parti de cette idée que la photographie humaniste ne s'arrêtait pas à une époque et qu'elle pouvait aller bien, bien plus loin. Et on a essayé de travailler à conceptualiser cette dimension de la photographie humaniste.
Est-ce que c'est, Fabien Cohen, la création de cette maison Robert Doisneau, avec là, toutes ces étapes que vous venez de rappeler, a présidé d'une certaine manière ou aurait impulsé ce projet-là aujourd'hui du lavoir numérique encore plus loin? Est-ce que ça l'a aidé à sortir lui aussi de terre?
Je crois qu'il a aidé à concrétiser cette idée, puisque en parallèle, je dis bien en parallèle, il y a eu le festival vidéo qui s'est mis à naître, a été créée l'association Son et Image, que nous mettions en place des ateliers, et donc on a vu se préfigurer la possibilité d'avoir un pôle comme ça d'image et de son. il nous manquait quelque chose qui nous permettait d'aller vers le public, d'aller vers les jeunes, vers les cités, vers les gens, etc. C'est pour ça qu'au-delà de la dimension, j'allais dire, expo, que représente et édition,
et patrimonial,
avec notamment l'achat d'œuvres, etc., il y a eu l'histoire de la photographie à l'école. La photographie à l'école était dans la continuité de cela, et que continue d'ailleurs la maison Robert Doisneau, pour ne pas faire que de la photographie, mais bien au-delà. Donc, ce lieu-là, c'est ce qui a un petit peu été à la source du projet des bains-douches, que son image avait déposé, et qui cherchait à donner une nouvelle vie au bâtiment des bains-douches. Et donc, le lien s'est fait aussi un peu comme ça. C'est-à-dire que quand on additionne... C'est pour ça que je dis, c'est, la vie, c'est ça. Hein, c'est des opportunités, mais qu'il faut savoir saisir. Mais il faut avant un projet. Et le projet, c'est simplement dire que l'image et le son sont fondamentales dans notre société et que l'ensemble des gens devraient pouvoir avoir accès. Alors, on ne les oblige pas à avoir accès, mais ils doivent avoir cette possibilité d'avoir accès. Et pour ça, il leur faut des lieux, il leur faut des outils, il leur faut des personnes compétentes qui puissent les aider à accéder à cette démarche-là. C'est pour vous dire qu'on a tâté de tout. On a tâté de tout pour voir jusqu'où on pouvait aller. Jusqu'où on pouvait montrer qu'une petite ville comme Gentilly, je rappelle 17 000 habitants quand même au passage, en surface c'est la plus petite ville du département, 117 hectares, 1,5 km dans sa plus grande longueur, une petite ville comme celle-là pouvait être force de proposition et d'innovation en termes de politique culturelle. Et ce concept d'éducation à l'image et au son, il est dans les fondements de la maison du Lavoir. Il était dans la maison de la photographie. Je n'imaginais pas un seul instant, et bien ni Laure encore moins, qu'on puisse avoir une maison Robert Doisneau et que les gens viennent juste regarder des photos. Il fallait trouver le lien. Comment faire pour que les enfants de Gentilly et les moins jeunes, les parents et les enseignants, etc., etc., viennent à la maison Robert Doisneau, si ce n'est en les rendant eux-mêmes acteurs de cette maison ou actrices de cette maison Robert Doisneau. Et la photographie à l'école, qui a maintenant, je ne sais plus combien d'années, 22 ans, cette photographie à l'école, elle était fondamentale. Ce que je veux dire par là, c'est que la construction d'une politique culturelle, elle est à la fois... de savoir pour qui vous la faites, dans quel objectif, comment vous pouvez mettre à la fois le créateur ou les créateurs, créatrices, et en même temps les citoyens et les citoyennes, jeunes ou moins jeunes, comment vous pouvez les mettre en synergie. Et on ne peut pas les mettre en synergie s'il n'y a pas une stratégie qui permette de créer les conditions à la fois de l'aide à la création et de promotion du travail et d'éducation à la culture.
Notre rencontre avec Fabien Cohen, ancien adjoint à la culture de la ville de Gentilly, se termine ici et désormais, vous le savez, cette histoire du Lavoir numérique continue de s'écrire, de s'étoffer et de vibrer. Et ce nouvel équipement culturel de la ville de Gentilly vous accueille et vous propose une programmation riche que vous pouvez découvrir en vous rendant sur Zone, aux 4 rue de Freiberg, à Gentilly, ou sur le site internet où vous trouverez aussi les liens vers les autres épisodes de cette collection de podcasts produite par l'établissement public Grand Orly Seine-Bièvre et le Lavoir numérique sous l'impulsion de son directeur et réalisé par Écran Sonore. Une collection de podcasts originaux présente sur toutes les plateformes de podcasts. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode si vous l'avez aimé. Montage et mixage, Benoît Artaud. Au micro, Alexandre Hérault.